Décidément, il nous faut vraiment du temps pour ces cultes, hein, chaque fois que on veut laisser Dieu agir, et puis du coup, on arrive à des heures où les estomacs gargouillent, et alors je suis toujours embarrassé, je dis, mais est-ce que c'est vraiment le temps de... Alors je vais essayer d'être de pas être trop long, hein, peut-être un quart d'heure, 20 minutes, si vous pouvez m'accorder ça, mais je pense que c'est important quand même que dans un culte, même si l'action du Saint-Esprit qui est nécessaire, eh bien qu'il y ait quand même ce temps avec la parole de Dieu. Juste quelques annonces. Donc demain, on va avec Manuela, on va visiter une tante qui est très très malade, hospitalisée, vraiment en phase un peu difficile là. Ensuite, on est invité dans une église à Marseille, donc le week-end prochain, où des réunions, une église qui est intéressée par rapport à la vision d'école chrétienne. Merci de prier pour moi, de penser à cela aussi. Et ensuite, la semaine d'après, je suis sur Aix-en-Provence. Je rappelle, je termine le cursus d'études là, et donc j'ai des jours là-bas. Et ensuite, directement, je vais sur le séminaire Mathurin Cordier à Emmaüs, donc à Lausanne, près de Lausanne. Donc pendant 2 semaines, vous me verrez pas. Ça veut pas dire que je suis pas actif, mais j'appellerai vraiment vos prières. Depuis une semaine ou deux, j'ai vraiment des très forts maux de tête. Et on a discerné, en particulier cette nuit, que c'était pas une question de santé, c'était vraiment attaque au culte. Hein. Et on a prié cette nuit, clac, ça s'est stoppé. Il me semble que l'état de santé de Huguette, il y a Patrick aussi qui a de fortes migraines, etc. Au niveau de la tête de l'église, en ce moment, on est attaqué dans les corps. Hein. Donc quelqu'un était venu il y a un mois, et il a dit, voilà, je vois de la sorcellerie sur cette église. Donc ça, c'est pas grave du tout, hein, ça prouve qu'on dérange, mais je pense que c'est important qu'on prie les uns pour les autres, hein, et par rapport à ça, aucun enchantement n'a de pouvoir sur le peuple de Dieu, ça c'est important. Alors ce matin, simplement, 2 paroles, la première dans psaume 119, versets 1 à 11, « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel, heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité, marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? Là, ça me parle par rapport à ce matin. Rappelez-vous l'introduction de Stéphane, qui était sur la parole. Hein. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Ça, c'est le premier texte. Le deuxième texte, c'est dans 2 Rois, chapitre 5, versets 38 à 41. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Et comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot, fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » Et l'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage, il cueillit des colocanes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent « La mort est dans le pot, homme de Dieu !» Et ils ne purent en manger. Et Élisée vint, il dit « Prenez de la farine. » Il en jeta dans le pot, et il dit « Serre à ces gens, et qu'ils mangent. » Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Juste introduire cet aspect de la parole de Dieu ce matin. Et je crois que le thème qui a été introduit ce matin par Stéphane, cette thématique de la parole, je crois que Dieu met fortement sur mon cœur ça ce matin, je crois que c'est pour chacun. C'est quoi ce pot où il y a de la mort ? Ce pot où il y a de la mort, ça peut être notre vie, ça peut être notre famille, ça peut être notre pays. Et puis, on peut se dire, mais comment je peux sortir de là ? Alors on peut aller courir à... On a besoin de prière, et tous on a besoin de prière, les uns pour les autres, c'est bien. On veut chercher parfois aussi un réconfort fraternel, etc. Mais il y a une chose que tu pourras jamais vivre par procuration. Il y a une chose, il y a une bénédiction que tu pourras jamais vivre par procuration, c'est-à-dire en comptant sur les autres. C'est cette farine dans ton pot. Et cette farine dans ton pot, cette farine qui guérit, qui enlève la mort, c'est le symbole de la parole de Dieu. Parfois, il y a des situations psychologiques, physiques, humaines, où il y a la mort. Et on crie de l'aide, etc. Mais je vous dis une chose, il y a des moments où c'est quand tu construis avec la parole de Dieu dans ta vie, que tu laisses le Jésus, qui est la parole de Dieu, venir dans ta vie, que les situations se règlent. Il y a des situations qui ne se règlent pas par la prière. Est-ce que vous saviez ça? Il y a des situations qui ne se règlent pas par la prière. Il y a des situations qui ont besoin que la parole et la farine viennent dans ta vie, remplissent ta vie. Et quand il y a la farine dans ta vie, quand il y a la parole dans ta vie, il n'y a pas de place pour le reste. Il n'y a pas de place pour le reste. Et là, j'aimerais mettre aussi un accent par rapport à tout ce qui est démonologie, etc. C'est vrai qu'on est appelé à chasser les démons. Mais parfois, ça ne sert à rien du tout. Moi, je vais vous dire une façon dont ils partent, les démons. C'est quand la parole de Dieu commence à être dans ta vie, à venir vivante. Cette parole de Dieu qui prend la place dans ta maison. Et quand ça commence à remplir ta maison, je peux t'assurer qu'il n'y a plus de place pour le reste. Moi, j'ai vécu tant de délivrances, etc., simplement avec la parole de Dieu et le parler en langue dans l'esprit. Et puis, on remplit sa maison, il n'y a plus de place pour le reste. Donc, qu'il n'y ait aucune situation au milieu de nous de dépendance par rapport aux autres, tout ça, dans le sens que on a l'impression qu'on a toujours besoin, on n'est pas indépendant. Alors, on n'est pas indépendant dans le corps de Christ, mais cette parole de Dieu personnelle, dans ta vie, cette farine dans ton pot à toi, il y a besoin pour cela. Alors, à l'église, on reçoit, mais il y a besoin de mettre plus de farine dans nos pots. Hein, ça, c'est vraiment ça, le principe. Et Élisée, vous voyez, il a dit, ben mettez de la farine. Une église prophétique, c'est une église qui est pleine de cette farine-là. Et quels que soient les pots que tu vas rencontrer, eh bien, tu auras de la farine à donner. Alors, dans le psaume 119, c'est tout un psaume qui est merveilleux au niveau de la parole de Dieu, de l'amour de la parole de Dieu. Il y a des gens qui disent, mais les Juifs, ils étaient légalistes. C'est une petite marge qui était légaliste, je peux vous assurer. Le rapport qu'ils avaient avec la parole de Dieu, c'était pas un rapport légaliste, c'était un rapport amoureux. C'est un rapport amoureux. Regardez, on va pas le lire ce matin, mais dans le psaume 119, je sers ta parole dans mon cœur, mais il est dit, j'aime tes commandements. Le rapport à cette parole est un rapport amoureux. Et Jésus dit, je suis la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Alors, l'importance, c'est que, et j'aimerais donner l'accent ce matin, c'est par rapport à la notion du souvenir. Manuela a annoncé un tabernacle qui parlera de Pourim. Pourim, c'est cette grande fête juive où on se rappelle la délivrance du temps d'Esther, de Aman. Et Aman est un descendant de Amalek. Et Amalek, c'était celui quand Israël sortait d'Égypte, il n'avait pas encore reçu la loi de Dieu. Et Amalek était là pour essayer de détruire ce peuple avant qu'il apprenne les choses de Dieu. Le détruire juste à ce moment-là. Et moi, je pense qu'en tant qu'Église, nous sommes en train de rentrer dans une terre promise. Et c'est la vision de Caleb, c'est la vision du vestiaire, c'est la vision... On n'est pas beaucoup dans cette Église. Mais la vision que Dieu nous confie, elle est tellement grande. Et en même temps... Ce Pourim, c'est la défaite d'Amalek et de Aman qui est venu pour détruire avant même que ce peuple soit constitué en tant que nation. Avant même quelque part que Josué prenne tout son essor, il y en a un qui veut nous arrêter. Et ce tabernacle, c'est ce souvenir de cette grande victoire de cette reine, de tout le peuple d'Israël grâce à l'obéissance d'une reine Esther. Et cette reine, elle a fait quoi? Eh bien, elle sentait qu'elle n'avait pas tellement le courage. Et alors elle a dit, il faut prier, il faut que tout le peuple prie, il faut que tout le peuple jeûne avec moi. Et c'est pour ça qu'on propose cette chaîne de jeûne et prière. Ce n'est pas pour forcer la main de Dieu, mais c'est pour que notre vie à nous soit en accord et en harmonie avec Dieu, dans la foi de Dieu. Et que la foi que Dieu sème dans nos vies, elle puisse grandir pour être à la hauteur de la tâche et de la mission que Dieu a pour nous. Savoir, quand le psalmiste dit « Je sers ta parole sur mon cœur », j'aimerais vous dire que, je l'ai déjà dit ici, c'est pas une figure métaphorique, c'est pas une belle image, hein, je sers ta parole comme ça. Non, non, il la prend par cœur. Il la prend par cœur. Et j'aimerais insister ce matin sur quelque chose qui nous étonne, mais c'est que le souvenir en Israël, la culture du souvenir, se faisait par beaucoup de mémorisation. Et j'aimerais dire que je pense que nous ne pourrons pas transformer une culture dans notre pays sans être nous-mêmes une culture remplie de cette parole. J'aimerais donner un exemple, c'est l'exemple par exemple du début de l'Église, lorsqu'il y avait les pères de l'Église, qu'on appelle des gens comme Saint Augustin. C'était un pays, nous sommes au 4e siècle après Jésus-Christ, il y a eu les invasions barbares partout, les églises qui avaient été ravagées. En Europe, tout ce qui avait été construit a été détruit, il fallait tout, c'était pas facile. Il y avait les invasions de différents pays. Et puis alors, ce Saint Augustin, eh bien, comme d'autres dans son temps, eh bien, les Écritures, il les connaissait. Il les connaissait tellement bien que tout ce qu'il pensait, tout ce qu'il faisait, c'était rempli de la sève biblique. Et ça a été transmis à d'autres. Et puis, comme les Juifs ont pu être un peuple à part pendant tellement longtemps jusqu'à aujourd'hui, pourquoi ? Parce qu'ils aiment la parole. Et c'est ça qui fait la différence. Donc une église du Nouveau Testament, une église de Jésus, eh bien, est une église qui est défiée à avoir cette farine et cette parole dans son cœur, c'est-à-dire, l'expression française, la prendre par cœur. Le mot souvenir dans l'Ancien Testament, il revient très souvent. Et la Bible dit, si tu oublies, eh bien tu deviens infidèle à l'alliance de Dieu. Si tu oublies la parole, tu oublies Dieu. Et donc oublier, le contraire d'oublier, c'est quoi ? C'est mettre dans son cœur, c'est mémoriser. Le contraire d'oublier, c'est mémoriser. L'importance de la mémorisation. Alors, au temps d'Israël, vous savez, les 10 commandements, il est dit, écoute l'Éternel, écoute Israël. Avant la mémorisation, il y a l'écoute. Et là, j'aimerais nous rappeler à tous, nous sommes dans une culture qui a du mal à écouter. Du matin au soir, il y a de la musique. Dès qu'on a un peu de... On remplit les vides, quoi. On remplit les vides. Et puis, du coup, la capacité d'écoute, elle est beaucoup perdue aujourd'hui. Mais avant les commandements de Dieu, avant la parole, il y a la capacité d'écoute. Et la capacité d'écoute, c'est un commandement. Dieu nous dit, écoute Israël. Être un chrétien qui n'a pas appris à écouter Dieu, eh bien, on est au stade de petit bébé. Et Dieu voudrait qu'on développe une oreille spirituelle, la capacité d'écouter. Écoute Israël. La capacité de prêter attention. Et ça, c'est quelque chose qui se développe. C'est quelque chose qui ne vient pas. Et je parle en particulier au niveau des jeunes. Tout dans la culture empêche la capacité de prêter attention. Il y a des écoles en Inde, ce n'est pas des chrétiens, c'était du temps de Gandhi. La non-violence, tout ça, hein, vous savez, c'est une sagesse. Hein. Et dans les écoles, au niveau des enfants, ils avaient tous les matins une heure de silence. Et ils appelaient ça la méditation. Une heure. Et des gens qui ont fait des études, ils ont vu que ces enfants, ils avaient développé une vie intérieure extrêmement riche. Extrêmement riche. Et là, je ne parle pas de chrétiens. Mais a fortiori, si on est chrétien, eh bien, cette vie intérieure, Dieu veut la développer. Et il la développe dans un climat d'écoute. Et ce climat d'écoute va à l'encontre de tout ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, je ne suis pas là pour mettre... Je suis là pour donner une vision. Pour donner un mandat, pour dire, voilà, c'est vers là qu'on veut aller. La parole de Dieu, elle s'écoute en premier. C'est d'ailleurs pour ça que les Juifs, ils la lisent à voix haute. Parce que la parole, elle rentre par l'oreille. D'accord ? Et ça doit rentrer, et elle rentre aussi par la bouche. Et j'aimerais dire que dans le livre de Deutéronome, il est dit que cette parole-ci, la parole est près de toi, dans ta bouche, et dans ton cœur. Et je rappelle que la porte d'entrée de notre cœur, c'est notre bouche. Ça veut dire que si tu dis quelque chose de négatif avec ta bouche, ça rentre dans ton cœur. Ça rentre, tu ouvres la porte pour que ça rentre dans ton cœur. Si tu commences à confesser la parole de Dieu dans ta bouche, ton cœur va être nourri parce que tu dis. Donc c'est pas seulement l'écoute passive, l'oreille, Mais c'est l'écoute à la tradition juive, c'est-à-dire je répète la parole de Dieu. J'écoute avec mes oreilles, mais aussi avec ma bouche. Ça, c'est tellement important. La mémoire, elle est faite d'attention. Et le cœur, c'est le lieu de la mémoire. Alors le cœur, en hébreu, ça se dit leb. Et leb, c'est deux lettres. La première, qui c'est le L, leb, de leb, c'est le lamed. Et puis la deuxième, le B, c'est le bait. Et bait, ça veut dire la maison. La maison. Alors, la maison, l'idée, c'est que c'est quelque chose qui enveloppe, qui protège, qui contient la vie. Et cette maison, ça peut même aller très loin. Pour Dieu, sa maison, c'est le cosmos. Mais notre cœur est une maison. Notre cœur est fait pour être... C'est un temple. Il est fait pour avoir la présence du trois fois saint, de Dieu. La présence de Jésus, qui est la parole de Dieu. Et le L, le Lamed, c'est un aiguillon. D'ailleurs, la forme même de la lettre, c'est comme un... C'est à la fois comme un grand bâton de berger, comme ça recourbé au bout, là, pour conduire. Mais c'est aussi, ça veut dire, en hébreu, aiguillon, c'est ce même instrument dont le paysan se sert pour piquer le bœuf quand il ne veut pas avancer. Et l'idée, c'est que, pour que ça rentre dans le cœur, il faut pousser dedans. Vous voyez, il faut pousser dedans. Et ça, c'est le rôle du lamed, de l'aiguillon. Et dans ce mot, vous avez aussi, par exemple, le talmid, talmud, mid, ça veut dire apprendre. Donc la med, c'est apprendre. Donc vous avez ici, on n'apprend pas sans qu'il y ait cet effort pour que ça rentre dedans. Voyez. Et c'est pour ça que les juifs, dans les écoles juives, etc., ils répétaient la parole de Dieu. Ils la répétaient pour que ça rentre. Et quand ça rentrait dans le cœur, ça transformait la mentalité. Et c'est là que j'en viens au défi. Il n'y a pas de transformation de mentalité possible sans notre cœur rempli de cette parole. Voyez, je prends des exemples missionnaires. Il y a des missions, par exemple des missions catholiques en Afrique. Ils ont remarqué au niveau des fruits du changement de mentalité des gens, les missions qui ont utilisé les techniques de mémorisation des Écritures, pas mémorisation idiote, hein, on comprend ce qu'on apprend quand même, mais la mémorisation, ça a transformé les mentalités beaucoup plus que ceux qui se contentaient simplement de ci, de là, d'enseigner. Donc, la mémorisation, ce n'est pas du péroquétisme. La mémorisation, c'est le Christ qui est parole de Dieu, qui est dans notre cœur. Et cette parole, eh bien, il y a besoin le cœur qui est l'amed. Rappelez-vous cette notion de l'aiguillon qui est important. La parole, c'est dans Deutéronome 30, verset 14, la parole est tout près de toi, elle est sur ta bouche et dans ton cœur et dans tes mains pour la faire. Donc, le chemin, c'est quoi? C'est d'abord la bouche, je répète la parole, je la prononce, je la dis, je la prie, je la chante, ensuite ça vient dans le cœur, et une fois que c'est dans le cœur, tes mains, ton action va faire ce qui est dans ton cœur. Voilà, donc l'importance de la bouche. Deutéronome 29, je serre ta parole dans mon cœur. Psaume 119, on l'a dit. Et plus loin, Deutéronome 29, de mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Toutes les sentences de ta bouche. Vous voyez ? Donc il énumère. Dans la Bible, vous avez des tas de passages comme ça. Et j'aimerais dire, par exemple, dans le Talmud, il est dit, un enfant oublie tout après 3 ans s'il n'a lu qu'au travers des yeux. Si on ne lit qu'avec nos yeux notre parole, on oublie tout, mes amis. Mais si on la répète, elle va rentrer dans notre cœur. Et alors, il y a par exemple, comment ils apprenaient? Ils la chantaient. Ce qu'on appelle la cantillation. C'est-à-dire, ils prenaient les versets de la parole, et il y avait c'était des musiques toutes simples, hein, et puis avec un balancement du corps. Il y a des gens qui ont remarqué, ben les juifs, comment, vous savez, souvent ils prient comme ça là. Mais c'est pas pour rien. On apprend mieux quand on apprend avec le corps. Et le corps, on est sur deux jambes. Hein. L'homme, il est duel, c'est-à-dire il y a deux jambes, il y a deux yeux, il y a devant, derrière. Il y a une dualité chez l'homme. Eh bien, le fait d'apprendre cette parole en marchant eh bien, est une technique que Jésus lui-même a utilisée. Ce que je vous dis là, c'est ce que Jésus a fait avec ses disciples. Jésus a utilisé les méthodes des rabbins pour que son message soit appris. Comment l'évangile nous est venu ? Il n'est pas venu par des gens qui ont écrit. Les disciples, au début, ils n'ont pas écrit tout de suite. Jésus n'a jamais écrit. Comment c'est venu ? Ils connaissaient par cœur. Ils connaissaient par cœur le message de Jésus. Parce que c'était la culture. On apprenait par cœur le message du maître. Et c'est pas étonnant qu'après, quand par exemple, vous avez un Pierre devant le Jérusalem, devant le temple, il cite les Écritures. Il va pas chercher sa Bible en disant, bon, on va regarder la parole. Non, non, non. Ça sort tout seul. Il cite les Écritures. C'est devenu une habitude. Et je crois que, alors nous, pour nous, plus âgés, c'est peut-être plus difficile, mais je crois que c'est pour tout le monde. Il y a vraiment un défi pour cette parole. Il y a Philon d'Alexandrie qui disait, dont nous sommes dans l'Antiquité, nous disait, depuis sa tendre enfance, l'enfant porte l'image des commandements gravés dans son âme. Flavius Joseph, donc l'historien du judaïsme, de l'Antiquité juive, il disait ceci, chez nous, on peut interroger le premier venu sur la loi, il récitera ses décrets plus facilement que son nom, car depuis l'éveil de la conscience, ils sont en quelque sorte gravés dans son âme. Gravé dans son âme. Et il y a l'histoire de Hillel. Nous sommes dans l'Antiquité, quelques siècles après Jésus-Christ. Le peuple d'Israël donc était dispersé dans le monde. Et ce rabbin s'est trouvé sans Bible. Sans Bible. Et il était avec des enfants. Et l'histoire nous dit que le livre d'Esther a été reconstitué rien que par la mémorisation de chaque enfant qui était là. Ils ont reconstitué le livre entier. Donc ça, c'était... On dit qu'on en est loin de tout ça. Qu'on en est loin de tout ça. Et pourtant, c'est vraiment dans le cœur de la parole de Dieu. Vous avez remarqué pourquoi il y a des psaumes, alors on ne le voit pas trop bien en français, mais en hébreu, vous avez des psaumes, ils commencent par exemple par la première lettre de l'alphabet, A. Ensuite, le deuxième verset, ça commence par B. Le troisième, par C. Le psaume 119, par exemple. Pourquoi il y a des psaumes où il y a comme des répétitions, des symétries? Mais c'est pour que ça soit appris par cœur. La forme même de notre Bible souligne l'importance de la mémorisation. Mémorisation égale souvenir, mémorisation égale parole de Dieu dans notre cœur. Et ça, c'est tellement, tellement important. Quand vous prenez par exemple le Proverbe 18, versets 20 à 22, il y a ce qu'on appelle des consonnes qui sont répétées, des allitérations. C'est-à-dire quand on entend en hébreu, c'est comme une musique qui revient. Pourquoi ça revient à intervalles réguliers ? C'est pour que ça aide, ça nous aide, ça aide les juifs à apprendre par cœur. Les poèmes alphabétiques, donc ils commencent chacun par une consonne, une syllabe particulière. Vous avez par exemple le Proverbe 31. Le Proverbe 31, vous avez un chapitre qui est extrêmement bien détaillé et on voit que dans ce rythme-là, c'est propice à l'apprentissage par cœur. Le psaume 119 aussi, on en a parlé. Les répétitions de mots, etc. Les psaumes étaient chantés, je rappelle. Les psaumes, nous, on les lit. Mais ils n'étaient pas faits pour être lus. Ils étaient faits pour être chantés. Pourquoi pour être chantés ? Parce que quand on chante un psaume, on l'apprend mieux. Donc c'était ça. Et je veux dire, je partage ce matin quelque chose qui est un peu, vous allez me dire, c'est un peu spécial. Mais Jésus lui-même a utilisé ça. Et c'est un théologien, M. Riesenfeld, qui dit ceci. Dans les évangiles, il nous est montré clairement que Jésus était un enseignant, en particulier avec ses disciples. Il leur a donné instruction, et cela selon la méthode des rabbins juifs. Cela implique qu'il a obligé ses disciples, et surtout les 12, à apprendre, plus que cela, à apprendre par cœur. Apprendre par cœur. Voilà, donc cette parole, quand Jésus était dans le désert, tenté par l'ennemi, est-ce que vous croyez qu'il avait ses écritures, son rouleau avec lui ? Non. Quand Satan l'a tenté, Jésus a combattu avec les écritures. D'où elles venaient les écritures ? Il les avait apprises. Jésus, à 12 ans, il discourait dans le temple avec les enseignants. Mais vous savez qu'à 12 ans, c'est presque 13, il fête les juifs la bar mitzvah. C'est-à-dire on est des fils de la loi. C'est-à-dire qu'on a mémorisé la Torah. Les enfants, à 13 ans, avaient mémorisé, pour la plupart, l'Ancien Testament. Et dans la tradition de l'Église, c'est pareil. Je prends Murbach ici, l'abbé de Murbach. La formation des moines, c'était l'apprentissage par cœur. Le minimum, c'était le Nouveau Testament en entier. et les 150 psaumes. Et on s'étonne que dans notre pays, on ait eu pendant 1000 ans quand même une culture chrétienne, où quand quelqu'un peignait, il peignait pour la gloire de Dieu. Quand quelqu'un faisait un vitrail, c'était pour honorer Dieu. Quand quelqu'un bâtissait une église, c'était pour honorer son Créateur. La culture était remplie d'une sève biblique. Alors ce n'était pas parfait, parce que les hommes ne sont pas parfaits, bien sûr. Mais quand même, il y avait cette sève biblique partout. Mais c'était, voilà, ça débordait du cœur. Alors Jésus lui-même, il a fait apprendre ses disciples. Jésus lui-même. Alors ça, c'est très important. Et puis, je termine en disant, là, c'est un article qui est sorti dans la revue La Nation en Suisse, qui s'appelle, c'est d'une certaine Laurence Benoît, et qu'elle disait qu'en fait, l'intelligence, comment elle fonctionne ? Elle doit fonctionner avec une mémoire. Et l'intelligence qui fonctionne sans une mémoire, sans des choses qu'on a apprises, et ça, c'est vrai pour l'école, mais c'est vrai aussi pour la vie chrétienne. Eh bien, c'est comme un estomac qui fonctionne à vide. Un estomac qui fonctionne à vide, il émet des sucs qui détruisent, qui font du mal. C'est pas bon. Eh bien, une intelligence qui fonctionne sans mémoire est une intelligence qui ne se fait pas du bien. Et le Seigneur nous dit, rappelle-toi mes commandements. Garde-les dans ton cœur. Serre ma parole sur ton cœur. Et ça développe une mentalité nouvelle, une intelligence nouvelle et une capacité de réagir par rapport aux attaques de l'ennemi tout à fait nouvelle. Moi, je le dis par exemple aux ceux qui font la louange aussi. Je crois que la mémorisation des Écritures est tellement importante. Et quand à un moment tu pars dans l'esprit, alors tu peux chanter comme on le fait souvent et c'est bien. Seigneur, l'honneur, la gloire, la louange, peu de mots. Et c'est vrai qu'avec peu de mots, on rentre dans la gloire. Mais imagine aussi que tu puisses chanter des passages entiers des Écritures. Que ça vienne comme ça. Quelle force! Quelle force! Et ça, je crois que le Seigneur, quand il dit « Je suis le pain, mangez-moi. » Alors nous, on prend le pain de la Sainte Cène, on le mange, mais ça veut dire beaucoup plus que ça. La parole, elle se mange. La parole, elle se médite. La parole, elle se mâche. C'est vraiment ça l'idée. Le mot méditation en hébreu, c'est le même mot qui est employé pour une vache. Excusez-moi l'expression, mais elle prend l'herbe, elle la mâche, elle met dans l'estomac, elle la fait ressortir, elle la mâche encore, c'est un va-et-vient entre l'estomac et la bouche. Eh bien, méditer la parole, c'est ça. C'est la mâcher. C'est rester dessus. Et je peux vous assurer que si nous rentrons dans cette dimension, il n'y a plus de mort dans le pot. Il n'y a plus de mort dans le pot. Il n'y a plus de mort. Et ça, c'est tellement important. Voilà, simplement, j'aimerais m'arrêter là, mais ça me semble tellement important. Et j'étais interpellé par l'introduction qu'a faite Stéphane. Voilà, ça n'allait pas très bien, tout ça. Il prend sa parole et Dieu parle. Et maintenant, cette parole, moi, je vous défie, je dis que ça puisse vraiment rentrer dans nos cœurs à chacun. Voilà. Alors ça demande un peu d'effort, ça demande surtout de l'amour, ça demande de l'amour. C'est pas des efforts quand on aime, on aime passer du temps. Eh bien le Seigneur voudrait raviver cet amour. Seigneur, merci de raviver cet amour de ta parole dans nos vies, Seigneur. Et comme le psalmiste, on veut pouvoir dire, on sert ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, nous croyons que nos cœurs, tu les remplis de pain. Tu es le pain vivant, Seigneur. Je te prie qu'en tant qu'Église, Église qui veut rentrer dans une dimension de l'Esprit, eh bien nous croyons que cette dimension de l'Esprit sera d'autant plus grande qu'il y a une dimension de l'ancrage dans la parole qui est là, de la farine dans notre peau. Merci Seigneur. Alors encourage chacun Seigneur, apprends-nous à écouter et apprends-nous à méditer cette parole de vie et que ça transforme nos vies Seigneur. Et nos mentalités, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.